De retour à l'émission Au gré du temps, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yves Beauchemin, celui qui a écrit Le Matou, Juliette Pomerleau. Mais avant de passer à l'écriture, on va revenir, vous parliez de ce rôle de directeur musical. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la direction musicale de Radio-Québec alors que vous aviez une formation en lettres? Qu'est-ce qui vous destinait à occuper cette fonction?
Le pur hasard. J'étais mélomane, j'ai une bonne mémoire musicale, et puis ce dont on avait besoin, c'était d'un illustrateur musical, quelqu'un qui trouve des thèmes, de la musique d'accompagnement et différentes choses comme ça. Et comme c'était les tout débuts de Télé-Québec, parce que Télé-Québec, Radio-Québec à l'époque, là, a été fondé, je crois, en 65, moi je suis, ou 66, moi je suis arrivé là, mais il diffusait pas. Puis moi, les premières années que j'étais là, Télé-Québec ne diffusait pas.
Non, on produisait des émissions, entre autres éducatives, qu'on pouvait diffuser dans les écoles, dans les milieux éducatifs. Mais je pense que l'entrée en onde est arrivée dans les années 70.
C'est ça. C'est ça. Alors, puis il n'y avait pas de discothèque, donc c'est moi qui l'ai en quelque sorte constitué avec, évidemment, je me suis adjoint, enfin, on m'a adjoint des employés, d'abord un, ensuite deux, puis trois. Et ça se faisait comme ça, à la bonne franquette. Et j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'au moment où je suis devenu recherchiste, toujours à Radio-Québec, pour utiliser le terme de l'époque. Et j'ai bien aimé ça.
Parce vous avez travaillé sur des émissions comme lesquelles, par exemple?
Toutes sortes d'émissions. Il y avait une série pour enfants, une série sur l'éducation des enfants qui s'appelait « Moi ». J'ai travaillé sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'émissions, mais j'étais pas... Je ne faisais pas partie de l'équipe de production. On venait à la discothèque chercher des choses. Et puis...
faire d'illustrations musicales.
C'est ça.
Je me souviens, entre autres, il y avait une émission, Les 100 tours de 100 tours,
oui,
c'est possible.
Oui, c'était au tout début, ça.
Oui, oui. Se retrouvait dans les milieux scolaires.
Alors, c'est sans doute moi qui ai trouvé la musique thème, parce que à ce moment-là, on ne faisait pas composer des thèmes pour des émissions, comme on le fait couramment maintenant pour les films, mais pas toujours. La discothèque était comme une espèce d'armoire à musique où on allait chercher ce dont on avait besoin.
Mais ça faisait plaisir aux mélomanes que vous étiez.
Ben oui, parce que j'étais continuellement dans la musique, puis j'en écoutais beaucoup. Il fallait en écouter beaucoup pour pouvoir faire des suggestions. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années.
Et ce passage à Radio-Québec a été bien sûr nourrissant au plan de la culture musicale, mais vous avez sûrement fait d'autres découvertes à fréquenter ces gens qui produisaient des émissions éducatives, des artistes, donc un milieu qui était très, très, très créatif.
Oui, c'était un milieu agréable à fréquenter. On voyait des comédiens, des réalisateurs, et c'était un milieu à l'époque aussi assez jeune. Les gens se sont mis à vieillir après.
Comme tous.
Oui, c'est ça. Je garde mon meilleur souvenir, c'est mes années de recherchiste. Alors là, c'est le côté journaliste chez moi qui a pris le dessus. Et il ne faut pas oublier que tout romancier, en tout cas un romancier réaliste, il y a toujours quelque part un journaliste qui est là parce qu'on a besoin de matière et on accumule. Et puis, n'oubliez pas qu'un romancier, c'est avant tout un voleur. On cherche, on prend des personnages, des visages, des expressions.
On se nourrit de l'environnement dans lequel on évolue.
Oui, et puis on est continuellement en train d'analyser puis d'observer les gens, les choses. Je suis en train de lire Jeunesse de Tolstoï, qui est la dernière partie d'une trilogie, avec Enfance, Adolescence, Jeunesse. Et Tolstoï aurait fait un journaliste d'enquête absolument stupéfiant. parce qu'il a une acuité de vision puis une mémoire visuelle et auditive, et je dirais même olfactive, absolument incroyable. Et c'est ce qui fait la force, la puissance de...
Et qu'il réussit à transmettre par son écriture.
Ah oui, puis là, écoutez, on est avant l'électricité, avant l'automobile, mais on est là quand même, là, avec lui, là, puis on souffle avec lui, puis on s'amuse avec lui. Quand il décrit le printemps, là, c'est le printemps russe de 1827 qui nous arrive aux narines, là.
Monsieur Beauchemin, vous évoquiez qu'à l'époque où vous étiez à Radio-Québec, vous utilisiez des thèmes de musique classique, qu'il n'y avait pas nécessairement de composition originale. C'était aussi l'habitude à Radio-Canada. La pièce que nous allons entendre est une musique de Nielsen, que vous connaissez bien.
Ben oui.
Qui est fondamentalement, dit-on, optimiste et qui s'ouvre sur un déluge de sonorités brillantes. Nous allons entendre le final marqué Allegro de la symphonie numéro 3, opus 27. Cette symphonie qui porte le nom aussi de Sinfonia Espansiva, qui date de 1912, qui est interprétée ici par l'Orchestre symphonique de San Francisco sous la direction d'Herbert Blondstedt. À noter que cette œuvre, et ça va sûrement vous rappeler des souvenirs, quand j'évoque Nielsen, vous pensez sûrement à une émission radio-canadienne.
Ben, les beaux dimanches.
Bien sûr. Alors, elle a servi de thème à cette fameuse émission qui était présentée tous les dimanches par le célèbre Henri Bergeron.
Ça, c'est quand Radio-Canada s'occupait de culture.
Alors, écoutons ce mouvement de la symphonie Allegro, symphonie numéro 3, dernier mouvement de Nielsen, Carl Nielsen.
Thank you.
On avait l'habitude d'entendre seulement le court extrait pour ceux qui ont à peu près notre âge. On se souvenait de l'émission des Beaux Dimanches. Mais là, on vient d'entendre le mouvement au complet. Il reste que Nilsson, c'est un auteur à découvrir pour ceux qui entendaient pour la première fois ce compositeur.
Ben, moi, j'ai découvert Nilsson dans les années 60, au début des années 60. Et c'est ce qui est extraordinaire, comme pour Martineau, puis comme pour d'autres compositeurs dont on va parler tout à l'heure.
Lui, c'est un Norvégien.
Oui. Et c'est que tu as vraiment le sentiment que c'est toi qui le découvre. Parce que découvrir Beethoven ou Mozart, oui, c'est bien le découvrir dans ta vie personnelle, mais tu n'as pas l'impression d'être en terra incognita. Tu n'as pas l'impression d'être dans l'inconnu puis de vraiment faire un voyage où tu découvres des paysages nouveaux. Mais Nilsson, en 1960, c'était... Il est inconnu, personne ne le connaissait. On n'avait qu'à regarder dans le catalogue Schwann le nombre de disques consacrés à de Microsillon à l'époque, de consacrés à sa musique. Et moi, ma première rencontre avec Nilsson, c'est avec la 5e symphonie, dirigée par Leonard Bernstein avec la Philharmonique de New York, je crois, et est en deux mouvements. Et le deuxième mouvement, ça m'a... Moi, je sortais d'une peine d'amour et c'est... C'est une symphonie qui a été inspirée par la Première Guerre mondiale, qui était un cataclysme épouvantable en termes de pertes humaines. Sans doute qu'au 20e siècle, ça n'a jamais été dépassé. Et Nilsson, je pense, exprimait ce qu'il avait vécu. Il n'a pas fait des services militaires, mais on a tous connu, au moins par les images, et puis aussi par des témoignages et puis par la mort de gens qu'on connaissait, l'horreur de l'hécatombe qui s'est produite. Mm-hmm. C'est pas une symphonie qui est sur la guerre, mais on ne peut pas s'empêcher. Mm-hmm. C'est le mot destruction, la lutte entre les éléments destructeurs et les éléments de vie est tellement présente. Et moi, évidemment, je me mettais là-dedans parce que c'était mon amour qui était détruit, puis je voulais continuer à vivre. Et je m'identifiais à ça. À chaque fois que j'écoutais ça, je pleurais comme un veau.
Et ce n'est pas le genre de compositeur qui est souvent au programme des orchestres symphoniques. J'ai fait une petite recherche à l'égard de ce que nous avons entendu précédemment. Cette 3e symphonie a été jouée deux fois à l'OSM, en 1988, sous la baguette de Charles Dutoit, et en 2006, sous celle de Jacques Lacombe. On ne retrouve pas très souvent ce genre de musique.
Mais c'est toujours les mêmes choses qu'on joue au concert. Le goût des publics de concert, ou alors des programmateurs peut-être, est tellement, comment je pourrais dire, sans vouloir être méchant, est tellement prudent.
Conservateur.
Si conservateur, oui, c'est ça. Et puis peut-être même un peu, ça exprime une certaine paresse. Si on n'avait pas les disques compacts, écoutez, on ne connaîtrait rien.
Vous avez parlé de l'Holocauste. Le prochain, et au retour de la pièce, vous m'en parlerez davantage, c'est une pièce de Mieczysław Weinberg. Il est d'origine juive polonaise et toute sa famille a été décimée, semble-t-il, par l'Holocauste. Alors, on va écouter de ce compositeur sa fantaisie pour violoncelle et orchestre, opus 52. On sent peut-être le drame dans cette, malgré le fait que ce soit une fantaisie. C'est le 3e mouvement marqué Andantino Leggero, Adagio, et c'est l'orchestre symphonique de Gothenburg sous la direction d'un chef d'orchestre nordique, c'est intéressant, Tord Svedlund.
Je suis allé à Gothenburg déjà.
Ah oui? Alors on parlera de ce compositeur au retour.
Thank you.
On vient d'entendre l'Orchestre symphonique de Gothenburg. Cette ville est la deuxième ville de Suède et se transforme en scène de la culture contemporaine et lieu d'accueil d'événements sportifs internationaux. On a construit un opéra en 94 et semble-t-il que c'est maintenant devenu un carrefour culturel important des pays nordiques. Mais Yves Beauchemin, j'aimerais que vous me parliez davantage de Vanberg.
J'ai découvert ce compositeur parce que je suis abonné à une revue américaine, une revue de musique qui s'appelle Fanfare, For Serious Record Collectors, or CDs Collectors maintenant. Je suis tombé sur... C'est une revue, c'est plus qu'une revue, c'est des vrais livres de 300, 400 pages constitués uniquement de critiques de disques par ordre alphabétique de compositeurs. Alors, si vous voulez savoir quels sont les derniers enregistrements de Beethoven, vous regardez au début à la lettre B, puis vous continuez B, C, D, E, F, puis à un moment donné, je suis arrivé à V, parce que, bon, en tout cas, on n'entre pas dans les détails. Ouais, Weinberg a eu des problèmes d'orthographe à cause de ses différentes origines. Il est né en Pologne, mais il a fait toute sa carrière en Russie. C'était un ami de Shostakovich, un protégé de Shostakovich. Ils habitaient le même immeuble, même, pendant plusieurs années.
Et de Prokofiev aussi, dit-on. Un grand ami de Prokofiev.
Faut le faire. Alors, faut le faire d'être ami en même temps de Prokofiev et de Shostakovich, ça je veux dire.
De bonnes relations, quoi.
Oui, c'est ça. C'était un disque, je le connaissais absolument pas, et à lire la critique, je me suis dit, ah, ça m'intéresse, il y avait un concerto de trompette puis la symphonie numéro 5. Alors, par instinct, j'ai acheté ce disque-là, et j'ai été conquis tout de suite. L'obstacle que Weinberg a eu à franchir, ou Weinberg maintenant, l'association qu'on fait de son œuvre avec celle de Shostakovich. Au début, il a passé pour être une espèce d'épigone de Shostakovich, d'écrire du sous Shostakovich. Et effectivement, la parenté de style entre les deux est assez évidente. Mais on peut trouver des parentés de style entre Mozart et Haydn aussi. Ils vivaient à la même époque. Ils utilisaient le même langage harmonique. Ils étaient tous les deux à Vienne, etc., etc. Donc, la même chose s'est produite pour Shostakovich et Weinberg. Sauf que plus on avance dans son œuvre, et surtout dans les œuvres de maturité, plus on s'aperçoit qu'il y a une voix vraiment à lui. C'était un grand admirateur de Shostakovich et Shostakovich l'admirait énormément aussi. Tellement que sa symphonie numéro 6, Shostakovich, qui enseignait au Conservatoire de Moscou, s'en servait comme pièce d'étude pour ses élèves en composition. Alors, c'est à cause de Shostakovich que Weinberg a pu venir s'établir à Moscou parce qu'il lui avait envoyé le manuscrit de sa première symphonie. Ah, et ben, on s'imagine, Shostakovich, il devait recevoir des manuscrits de gens qui se disaient, maître, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Puis enfin, je suis un génie, mais j'aimerais que vous l'entendre le dire. Et il a été conquis tout de suite et puis il a fait venir Weinberg à Moscou. Weinberg a vécu toute sa vie-là, il est mort en 96.
Quel privilège avons-nous d'avoir toutes ces informations provenant du mélomane, de celui qui aime la musique. Le temps file très rapidement, Yves Beauchemin. On va vous demander de revenir la semaine prochaine, si vous voulez bien. Et là, on parlera davantage, peut-être moins de musique, mais davantage du romancier. Ça vous va?
Ah, ça me va. J'en suis ravi.
On va se quitter, encore cependant, avec une belle pièce que je vais peut-être vous faire découvrir. Il s'agit d'une pièce d'Heinrich Ignaz Franz von Biber, ou Biber, je ne sais pas comment prononcer.
Je ne pourrais pas vous aider.
Qui est né en 1644. Alors ça, c'est antérieur à la période romantique, là. Qui est mort en 1704 à Salzbourg. C'était un violoniste et compositeur bohémien. Violoniste virtuose, dans certaines de ses œuvres, il utilise ce qu'on appelle la scordatura, la technique du violon désaccordé, pour créer une baisse ou une hausse de plusieurs cordes afin de pouvoir donner des effets sonores étranges. Mais ce que vous allez entendre, c'est la sonate du rosaire. La sonate du rosaire, qui est une sonate répétitive, mais qui est de toute beauté. Ce sera le thème final de cette émission. On avait aujourd'hui comme invité Yves Beauchemin. Soyez à l'écoute. Nous serons de retour la semaine prochaine. Au micro, Armand Dubois. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Guy Lafrance. À la semaine prochaine, M. Beauchemin.
Au revoir.